Existe-t-il une limite quand les jeunes entrent de plus en plus tôt dans l'univers virtuel et ses dérivés? D'ailleurs, ils savent tout faire en même temps, tuer les méchants et répondre au téléphone.
YOLO, mes chers amis, mes chers compatriotes, eh bien pour un sujet on ne peut plus particulier, ça fait très longtemps qu'on a envie de le faire avec Lo et Woody qui a envie de venir nous en parler, mais on attend toujours le bon moment parce que tu es pas là pour juste nous accompagner sur un sujet que tu juste, bon bah j'aime bien ça comme tu fais toujours avec plaisir, ce qui nous fait plaisir aussi où tu nous accompagnes, mais là on va parler de toi et par là quelque chose qui est ton présent et qui va être ton avenir, à savoir la lutherie.
Et oui.
Oh là là.
Et donc, le fait de faire des guitares, hein, pour lutherie, alors, on va préciser.
En ce qui me concerne, oui. Et pas nécessairement juste des guitares, parce que tu m'as posé une question en off, et là, je vais en profiter pour y répondre. Quelle était donc cette question, Lo?
Mais voilà, justement, moi, c'était ma première question. On te voit, et on va en parler, vous allez en voir défiler, on te voit faire tes premiers pas dans les guitares électriques, mais en fait, luthier, ça peut être plus large que ça, c'est des instruments en bois, on va dire, et encore, je suis même pas sûr que ça se limite à ça.
Alors, le luthier, ça va être le fabricant, l'artisan d'instruments à cordes. D'une manière générale. Alors après, les luthiers vont se spécialiser, c'est-à-dire que les luthiers qui vont faire des instruments classiques, ils vont généralement faire que ça. Un luthier de violon, bah, il va se spécialiser dans les violons, puis il va faire que ça, puis ça va être son art. De mon côté, ça va être luthier sur des instruments à cordes pincées, mais globalement tous les instruments à cordes pincées. On va fabriquer la plupart du temps des guitares électriques ou acoustiques, des basses électriques ou acoustiques, toutes les variétés de ce genre d'instruments-là, mais on peut être très bien amené à fabriquer des banjos, des luths, des ouds, des mandolines, des ukulélés, voilà,
ou
tout le spectre des instruments à cordes pincées, voilà, parce que c'est grossièrement le même concept, on a juste à adapter en fait certaines formes en récupérant des références historiques ou des plans qui existent, mais la méthode reste la même. Tandis que pour faire des instruments à cordes frottées, c'est différent, c'est un art complètement différent.
Donc luthier, alors maintenant qu'on a une bonne idée de ce que c'est et de un peu ta spécialité dans ce champ-là, mais finalement comment es-tu arrivé là? Parce que au départ tu n'es pas luthier. Tu es dans l'informatique, je pense.
C'est ça. Alors ouais, j'étais alors dans un nom pompeux de profession. J'étais ingénieur DevOps.
C'est-à-dire
pendant dix ans, j'ai fait ma petite place dans l'informatique. Et j'en étais arrivé à un métier où je faisais du consulting pour des devs, pour leur mettre en place des outils pour automatiser leur travail. Et pour faciliter le déploiement de nouvelles applications. Et c'est un truc qui m'a fait chier au bout du compte. J'en ai eu marre. Enfin, il y a eu beaucoup. Enfin, si on peut. Enfin, on va pas, je pense, revenir sur ce qui me plaisait plus, en fait, dans mon métier, parce que bon, c'est rasoir, et puis voilà. J'en ai eu marre.
Oui. Je pense et qu'au par bout contre, de 10 ans, tous les métiers peuvent te donner l'occasion de.
Mais surtout dans les métiers informatiques et qui touchent mon corps de métier. Parce qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui, passés la trentaine, se sont mis à faire autre chose. J'ai une de mes meilleures amies qui est partie dans la sophrologie. J'ai un pote qui s'est dit, je vais prendre une année sabbatique et je vais faire le tour de l'Australie dans un van. Enfin,
il y a beaucoup de choses. Dans les bureaux qui se mettent, on a souvent des reportages de quelqu'un dans Paris qui avait un bon salaire, qui se met dans l'agriculture. Enfin, beaucoup de besoin de respirer, en fait.
Oui, c'est toujours ce truc-là où tu te dis à un moment donné, putain, j'en ai marre de ce métier à la con, je vais aller élever des chefs dans le Larzac.
Mais il y a beaucoup
de monde dans les bureaux, c'est dit ça à un moment donné, quoi.
Et là, toi, c'est ton cas,
donc,
mais pas
toi,
des chefs.
Tu tu as décidé de le faire, mais du coup, c'est pas des chèvres et du fromage de chèvre.
C'est les
tu
guitares.
T'es dit.
Je vais élever des guitares.
Quelle est ma passion? Ou est-ce que c'était déjà ta passion et tu avais déjà essayé de faire
alors
des
moi
guitares
je suis, alors
comment
non.
ça t'est venu, en fait?
Moi, je suis musicien depuis le lycée. C'est-à-dire que j'ai plusieurs groupes, j'ai fait pas mal de scènes. Je suis bassiste au départ, mais je suis aussi chanteur et guitariste. Et le métier de luthier, je le connaissais parce que j'étais amené à avoir besoin de services de luthier pour faire de la maintenance de mes instruments.
À les côtoyer, en fait, et avoir c'est besoin ça. De leurs services, tout à fait.
C'est ça. Et il s'est avéré, à un moment donné, où j'en avais vraiment marre de mon boulot, que j'avais besoin, en fait, de faire une modif sur ma guitare parce que je voulais me faire un peu plaisir. Et j'ai découvert qu'il y avait un luthier dans ma rue. ça faisait des années que j'habitais là et que j'avais jamais tilté, finalement. Et en allant le voir, en fait, il s'est avéré qu'il était formateur à l'atelier où je suis aujourd'hui. En discutant, en fait, je fais « Ah, mais ça marche bien, luthier ?» Tu sais, un petit peu comme dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. « Sinon, c'est bien comme situation, scribe. » Voilà, donc du coup, on a fait cette petite conversation et en fait, l'idée a germé.
Ça t'a ouvert des perspectives.
C'est ça, et par curiosité, je suis allé visiter l'atelier et quand je suis rentré dans l'atelier, je voulais plus repartir, quoi.
Et il t'a dit, monsieur, faut sortir.
Voilà, c'est ça. Donc là, aujourd'hui, c'est ce prof-là, c'est la première année où il n'est plus là, où j'ai d'autres profs qui ont pris sa suite. Mais c'est une formation que je trouve absolument fascinante et passionnante. Voilà.
Mais tu dis, c'est la première année où il n'est pas là, où il n'est plus là. Toi, c'est ta première année où tu.
T'as c'est ma seule année.
C'est ta seule année. Il y a oui. une année de formation.
C'est même 6 mois, en fait, au final, parce que j'ai démarré fin octobre et je termine fin mars. J'ai commencé début octobre, pardon.
Et alors, comment ça se passe? C'est une alternance ou non, au départ?
Plein temps.
C'est un plein temps.
Alors, en fait, on a commencé sur le premier mois à faire de l'initiation à la menuiserie, parce que ça reste un métier, une formation qui est ouverte aux débutants, en fait, aux personnes qui n'ont jamais touché d'outils à bois. Donc cette initiation-là nous a permis de prendre en main les machines électroportatives, de prendre en main les outils à main, d'apprendre un petit peu à manipuler le bois, d'utiliser les grosses machines d'atelier. Parce que bon, il y a des normes de sécurité, il faut apprendre à s'en servir, c'est quelque chose de compliqué. Et on a eu également un stage sur de la sculpture sur bois, parce que c'est quelque chose qu'on est amené à faire, on pourra en parler un petit peu tout à l'heure, par rapport aux guitares sculptées, notamment une que je suis en train de faire. Et après, on a démarré pour de bon la lutherie avec les professeurs de lutherie. Au départ, sur tout ce qui était maintenance et opération de maintenance courante sur les instruments de musique. Donc ça qu'on a commencé à apprendre au départ. Et après, on s'est mis dans le vif du sujet à construire notre propre guitare électrique. Et là, la guitare électrique en question est bientôt terminée.
D'accord. Mais alors moi, je suis étonné que ça dure que 6 mois. Ou alors... Disons, tu continues à apprendre après, parce que uniquement les guitares électriques et les basses électriques, si on prend que ça déjà, c'est déjà compliqué, parce
oui.
qu'il y a tout l'aspect, évidemment, bois, hein, menuiserie, ébénisterie, mais il y a tout le reste, en fait. Il y a de la mécanique, il y a de l'électricité.
Oui, il y a l'électronique, ouais, effectivement, on a eu des cours
voilà,
d'électronique
également.
Voilà,
ça ne va pas
ouais.
forcément péter très loin, mais il y a tellement de variantes et de possibilités, c'est quand même assez complexe.
Alors, au départ, la formation durait 8 mois, ce qui restait quand même pas mal court. Le problème, c'est que dans ce centre-là, il y a pas mal de gens qui font des reconversions professionnelles. Et il y a eu des réformes, en fait, des reconversions professionnelles, où les financeurs ont revu à la baisse leur enveloppe de financement. Et donc, pour éviter que les stagiaires aient à sortir des sous de leur poche, le centre de formation a décidé de condenser la formation sur 6 mois. Donc, ça reste court. Donc, tu continueras toujours, pendant les mois et les années suivantes, à te perfectionner dans ton art. Ça, c'est inévitable. Tu sors pas de la formation parfaitement compétent dans ce que tu fais. Par contre, tu es obligé de continuer à pratiquer et à continuer à fabriquer des instruments pour affiner ton artisanat, finalement. Donc ça, c'est ce que je vais faire à partir du moment où je serai sorti de formation. Le truc, c'est que sur la formation de 8 mois, il y avait une partie où tu construisais un instrument acoustique également. Donc là, avec le temps qu'on a en moins, on va malheureusement voir un maximum de théorie là-dessus. réaliser les opérations qui sont différentes de la guitare électrique pour qu'on manipule avec les professeurs et pour qu'on comprenne en fait ce qui diffère. Et il faudra assez rapidement qu'on construise un instrument acoustique derrière chez nous pour justement prendre la main dessus, quoi.
Et donc, tu as quoi, vocation à ensuite trouver un emploi dans un atelier ou t'installer toi?
Alors, je m'installerai, je vais m'installer, ouais. Directement. Quand j'ai déménagé pour me rapprocher du centre de formation, on a prévu de trouver un logement avec un endroit où je pourrais me créer mon atelier qui soit entièrement réservé à la lutherie. Donc là, je suis en train d'aménager mon atelier.
Oh là là, on aura bientôt.
Ça se concrétise vraiment, vraiment, rapidement.
Pour de bon, ouais. Pour de bon, j'ai déjà acheté une grosse partie du matériel. Il me reste encore pas mal de machines à acheter. Et c'est quand même un investissement. Ouais, c'est un gros investissement de départ.
Et ouais. Alors, ouais, c'est des machines de menuiserie et d'ébénisterie.
C'est ça. Alors, il y a quelques machines qui sont essentielles. Sachant que, en fait, on pourrait concrètement faire une guitare uniquement avec des outils à main. Mais si on veut en faire son métier, ça devient vite pas très rentable et très compliqué. Mmh. Moi, dans les machines que je vais acheter, il y a une scie à ruban qui va me permettre de découper des grosses pièces de bois. Il va y avoir une dégauchisseuse raboteuse qui va me permettre de faire en sorte que mon bois soit corroyé, c'est-à-dire que les différentes faces soient perpendiculaires et parallèles, ce qui est très important pour réussir à faire des instruments qui ne soient pas bancales. Mais également, ouais, des choses comme des scies à chantourner, qui sont des toutes petites scies qui permettent de découper des toutes petites pièces, comme les incrustations qui vont dans la touche, par exemple. Et ouais, il y a quelques machines comme ça qui sont assez indispensables.
Alors les photos que vous voyez en défilé, on va les laisser comme ça, c'est les photos que vous pourrez trouver sur Instagram en partie, hein, il en mettra d'autres sur Instagram, de Woody, hein, c'est céréales en cours. Je vous mets d'ailleurs dans le chat son Instagram, comme ça vous pouvez aller le retrouver, il continue régulièrement de mettre des photos. Voilà. Pour le podcast, c'est Twitter majoritairement, et pour la lutherie, c'est Instagram.
C'est ça.
Pour ce qui est du design des guitares, du coup, tu as des sortes de patrons ou c'est vraiment des créations Enfin, bon, cette première guitare, là, j'imagine, bon, c'est une forme un peu imposée. Hein.
Alors oui, sur cette guitare, les autres stagiaires et moi, on fait tous une guitare, une Paul Reed Smith, qui est une forme de guitare standard, qui est assez à la mode d'ailleurs en ce moment. Par contre, donc on est parti sur un gabarit qu'on a fait nous-mêmes à partir de contours de la guitare standardisée que nous, après, on a découpé. Par contre, ce qui est étrange, enfin ce qui n'est pas étrange, ce qui est logique finalement, parce qu'en fait, étant donné qu'on va venir sculpter cette guitare-là, aucune de nos guitares a la même tronche.
Parce que, en fait, même gabarit, mais au final, elles n'ont pas la même tête.
Oui, alors le truc, c'est que si on faisait par exemple une guitare Telecaster, qui est une des toutes premières guitares de Fender, le corps est plat et la forme est simple. Mm. Donc là, une Telecaster ressemblera toujours à une Telecaster. Là, en l'occurrence, la Paul Reed Smith a une table sculptée. Donc en fait, la sculpture, au final, ça va imprimer tes mouvements. Et on a tous des façons différentes de bouger, d'appréhender les outils à main. Ce qui fait que les instruments vont avoir une patte qui sera difficilement copiable. Alors que bon, y a des luthiers très expérimentés qui arriveront à copier exactement une guitare avec des images qu'ils auront vues sur Internet. Mais nous, voilà, vu qu'on commence à appréhender les outils de sculpture, bah, on va faire avec nos erreurs, on va compenser un petit peu un coup de gouge à bois qu'on aura mis un petit peu trop loin ou ce genre de choses-là, ce qui va donner des formes un petit peu différentes en fonction du travail qu'on a mis dedans, quoi.
Mais je trouve ça super intéressant d'avoir une guitare unique que personne n'a. Et ça me... Il y a une autre question qui me vient, c'est que tu n'as pas vraiment, j'imagine, le droit de copier, par exemple, tu parlais de Fender, mais ou des Gibson connus, ou de faire une Flying V, ou ce genre de truc.
Il n'y a aucun problème avec ça.
Il n'y a pas de copyright sur les formes de guitare.
En fait, je trouve qu'en fait, c'est très mal vu chez les luthiers de copier le travail d'un autre luthier. Principalement si le luthier en question a dit bon voilà ça c'est mon modèle puis bon c'est vrai que c'est pas très classe. Par contre les modèles les modèles constructeurs, c'est du standard, on peut y aller quoi.
Mais parce
après, il y a des, je pense qu'il y a des marques déposées où vraiment ça c'est un truc signature, une collection machin, ça tu peux te faire embrouiller si tu fais. Mais bon, faut encore qu'ils te tombent dessus.
Mais t'as plein de styles, c'est vrai, mais il y a plein de choses qui peuvent se ressembler parce que même sur toutes les guitares qui ont été créées depuis la création, t'as quand même beaucoup de choses qui peuvent être similaires, donc t'auras forcément des trucs qui vont se ressembler. Donc des fois, copie ou pas copie, c'est très compliqué aussi quoi. Sur une forme qui peut. Est-ce que c'est de le.
Ouais, t'as des inspirations.
Voilà,
en fait,
c'est ça.
Si tu... Le truc, c'est si tu reprends exactement le même corps, le même manche et la même tête de manche, les guitaristes reconnaissent au premier coup d'œil.
Ah, c'est clair, mais de toute façon, il y a des clients qui vont te demander ça. Hein. Ils vont te dire bah,
oui,
moi, je
ils
veux
leur version custom
une
de...
Gibson Les Paul de 54. Enfin, voilà.
D'accord. Et ben moi, je suis plutôt Gibson d'ailleurs. Hein. Moi, ma...
Oui, pareil.
mes deux guitares, c'est une Gibson SG, une Gibson. Junior, Les Paul Junior.
Ouais. Les vrais, quoi.
Les vrais, les vrais. Et toi aussi, alors j'imagine que tu as beaucoup de guitares de ton côté.
J'en ai quelques-unes parce que j'ai une Ibanez qui imitation SG. J'ai aussi une guitare acoustique. J'ai une basse électroacoustique. J'ai une basse Yamaha aussi. Et là, je suis en train de me faire ma propre guitare. En fait le truc c'est que j'ai d'autres guitares en fait que j'ai prévu de me faire par la suite pour affiner mon art, donc là oui c'est vrai que quand je vais commencer à en avoir pas mal.
Et est-ce que ton art peut aller jusqu'à autre chose d'un peu différent qui est l'amplification ou les pédales d'effet ou tu vois ce genre de je sais pas quoi on peut
alors c'est possible
ce genre d'accessoires quoi.
C'est possible parce que on apprend de l'électronique sur notre stage parce que il y a de l'électronique dans les guitares. Hein. Les micros, il faut savoir apprendre comment ils fonctionnent. Faut savoir regarder un schéma de câblage et réussir à le reproduire et faire en sorte que ta guitare ne file pas des châtaignes quoi, et qu'elle arrive à sortir un son qui est suffisamment propre. Et on peut justement aller plus loin en se disant pourquoi j'irais pas mettre un processeur d'effet directement intégré dans la guitare ou ce que je trouverais pas un système pour faire une interface entre ma guitare et des pédales que tu aurais customisées. Et justement, le premier cours d'électronique qu'on a eu, c'était de la part d'un ingénieur qui faisait ses propres pédales de guitare. Et alors, c'est velu. Hein. On peut en venir à faire ça, mais contre, faut avoir une bonne base en électronique.
Je me posais la question, en fait.
Et ça prend énormément de temps parce que c'est compliqué.
Sur la difficulté de la chose.
C'est chaud, c'est vraiment très chaud. Moi, on a eu une matinée, je crois que c'était ça, une matinée où il nous a expliqué un petit peu tout ça. Je saignais du nez. Hein.
Alors, on voit quelques photos défiler, notamment, ça me refait penser à ton manche. Ce que tu as mis sur ton manche. Les espèces de perles, je sais pas ce que c'est en fait. Qu'est-ce que tu as incrusté dans ton manche?
Alors donc c'est pour les repères de touche. Donc la touche, oui, la partie qui vient sur le manche sur laquelle on va
c'est une ref à FF,
encastrer les frettes et où on va. Pardon?
Une ref à Final Fantasy, me semble-t-il.
Oui, donc ces incrustations-là, j'avais envie de faire une référence à Final Fantasy VII. Donc j'ai fait des incrustations de type materia, où en fait j'ai récupéré de la ballonne. Qui est une forme de nacre, que j'ai chantourné, c'est-à-dire que j'ai utilisé une scie à chantourner et je suis venu découper des petits ronds, en fait. C'est très minutieux, ça te flingue les yeux. Il ne faut pas se planter parce que sinon tu as des joueurs de partout. Enfin, voilà, c'est vraiment un gros travail de minutie. Et j'ai chantourné également des petits anneaux d'aluminium, en fait, dans lesquels je suis venu enchasser mon abalone. Et c'est comme ça que j'ai fait mes repères de touches. Ouais.
C'est très original du coup.
Et du coup, ta guitare a des pouvoirs et tu nous diras lesquels.
C'est ça, je vous dirai qui c'est que j'ai invoqué en mon concert.
C'est ça.
J'espère que ce soit positif.
Il va tout faire cramer. Rien ne va. Mais en tout cas, ouais, super classe. Et c'est sur ce côté-là, c'est sur ces points-là où tu peux vraiment avoir une personnalisation. Et c'est ça que je trouve bien par rapport à des guitares d'époque, mais vraiment de ce qui était fait
mais
dans les années.
Tu peux vraiment tout personnaliser. Hein. Tu peux,
la pop culture.
Un gabarit.
Je pense va apporter beaucoup de choses qui commencent déjà clairement. À apporter. Hein. Je veux dire, avant, le jeu vidéo qui n'existait pas, ne pouvait pas y avoir ces références-là dans une guitare. Et maintenant que ça existe, des références aux jeux vidéo, aux séries, aux comics ou ce que tu veux, ça va vraiment donner lieu à des créations de fous.
Est-ce que
c'est sûr, c'est déjà des demandes que j'ai eues. Hein.
Oh
si un... Voilà, est-ce qu'il y a un geek qui vient te commander une guitare Castlevania, évidemment, tu seras
ravi.
Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et je ne vais pas... révéler de quoi il s'agit, mais on m'a déjà demandé de commander deux guitares, et c'est des guitares en rapport avec des séries de jeux.
Oh là là. Mais du coup, question, parce que là-dessus, toi, donc, on dit tiens, j'aimerais ça, mais toi, tu as un rôle de conseil derrière, parce que tu auras peut-être des fois plein de novices qui ont juste, commencent peut-être la guitare, et ça va être leur cadeau de fin, une fois qu'ils seront assez forts.
Alors,
tu vois, à ce côté-là.
S'ils sont plutôt du côté fortuné, hein, parce que généralement, une guitare de luthier, tu vas pas aller en acheter une quand t'es débutant.
Non, mais je veux dire, tout court, la moto,
c'est
tu
des
la
milliardaires.
Et ça coûte, la moto, plus le permis moto, plus tout l'équipement, c'est des milliers d'euros. Et pourtant, tu le débutes. Donc, tu vois, il y a aussi ce côté tu débutes la guitare,
alors,
t'as 40 balais. Et en avant,
C'est là où le luthier est très intéressant. C'est parce que moi, je vais le comparer à un tailleur de costume. C'est-à-dire qu'il y a énormément de paramètres dans une guitare qui doivent s'adapter au final au musicien. Tu vas avoir le profil de ton manche, on va le faire plutôt de telle forme ou de telle autre en fonction de si tu as une grosse main ou si tu as une petite main ou si tu préfères faire des accords barrés. Ou peut-être que tu préfères avoir un manche plus fin sur tout en bas de ta touche pour faire des solos qui sont endiablés et qu'en haut tu aies quelque chose d'un petit peu plus rond pour faire des accords qui soient plus confortables.
Donc c'est vraiment sur mesure.
Est-ce que tu vas vouloir un radius de ta touche qui va être un petit peu plus bombé parce que tu es plus, plus à faire des accords? Et généralement, en fait, le luthier, il va devoir te dire
Une entrevue au départ où tu cherches à comprendre.
Et tu prends ton carnet et tu notes tout. Quoi.
Soit la personne sait exactement ce qu'elle veut, soit dans ces cas-là, tu vas dire t'aimes plutôt ça, tu veux plutôt ça, je te conseille ça, ou tu lui fais essayer différents types de paramètres pour qu'ils se disent je suis plus confortable là-dessus, etc.
Il y a un vrai rôle de conseil.
Pense que tu as un vrai droit à toi, tu as un vrai devoir de conseil, et c'est ça qui est intéressant aussi dans la profession de luthier comparé à aller acheter son instrument en magasin où au final tu vas être confronté à des standards et tu vas dire
il y a pas que la fabrication. La discussion qu'on a là, ça me rappelle de celle qu'on avait eue, tu connais bien l'ami Captain Café, que quand il nous en parlait, les gens qui viennent, faut pas voir ça comme un fast food, surtout pour les guitares vu le prix. C'est qu'il y a un vrai besoin de discussion aussi, c'est que le but, c'est pas seulement de faire son boulot, c'est le côté relationnel qui est ultra important, et c'est pourquoi tu fais aussi ce métier. Enfin, tu veux faire ce métier. Tu vas.
C'est clair.
Il y a aussi un aspect qui, moi, me paraît hyper important, c'est qu'il y a très peu, finalement, de produits de consommation, comme les instruments et comme spécialement les guitares ou autres instruments à cordes, qui vont durer des générations. En fait, ta guitare, si c'est une bonne guitare, elle va passer 2, 3, 4 générations sans problème.
Et si tu l'entretiens bien.
Justement, s'il y a des luthiers pour bien.
Et oui.
En fait. Combien il y a de produits qui sont comme ça? Très peu. Il y a les montres, les guitares, peut-être les... Mais même pas les voitures.
Mais ce sera l'électronique de la guitare.
Le buffet de ta grand-mère.
Il y a que l'électronique de la guitare.
Il y a les buffets, il y a tous les trucs en bois ou en pierre.
Qui peut défaillir.
Finalement, il n'y a pas grand-chose. Et des produits technologiques comme des guitares, parce que comme tu dis, Troyer, il y a aussi de l'électronique à l'intérieur. C'est vraiment très rare. J'en vois pas d'autres, en fait. C'est vrai, le seul produit... qui allie en même temps des matériaux naturels et de la technologie, et qui va durer des générations.
À part si c'est éclaté sur scène.
Le problème aussi, c'est qu'encore aujourd'hui, avec la guitare, il y a beaucoup de guitaristes la majeure partie des guitaristes qui connaissent pas les choses les plus essentielles à faire avec leur guitare pour que justement elle dure. Il y a peu de guitaristes qui savent que quand tu changes tes cordes, tu dois nourrir ta touche avec une huile. C'est obligatoire parce que sinon elle se craque, elle se fragilise. T'as peu de guitaristes qui savent comment régler la justesse ou comment régler l'action de leur corde, alors que ça, c'est quand tu prends n'importe quel instrumentiste classique, au final il va connaître cette vis là elle sert à ça sur ma flûte traversière, tu vois. Où ils devraient. Les guitaristes, au final, ils vont confier leur guitare à un luthier, ou sinon ils vont jamais s'en occuper parce qu'ils connaissent pas, quoi.
T'as ça des
ou
fois.
Ils ont peur de la casser.
J'ai cette référence dans le sport où le gars va bien jouer son match, mais par contre, tout l'arrière pour s'entretenir, il y a toute une équipe, tout un staff, parce que tout seul, il saurait pas le faire, il connaît rien, quoi. Il a besoin de quelqu'un derrière pour avoir les connaissances que lui n'a pas envie d'avoir ou n'a pas pensé à acquérir, tout simplement, quoi.
Oui, c'est clair. Et puis, il veut vouloir faire confiance à un professionnel pour ressortir avec un instrument carré, etc. Tu peux aller en concert tranquille, et puis voilà.
Voilà, en vrai, c'est quand même assez compliqué à entretenir. Parce qu'il y a tout un tas de pièces qui sont très fines à régler. Honnêtement, par exemple, si tu as des mécaniques un peu compliquées à bain d'huile, machin, c'est
mais la nouvelle génération,
impossible de les...
J'ai cette image juste que les gros qui ont beaucoup de moyens, ont 50 guitares, ils en pètent une, ils la ramènent, ils ont deux secours dans le concert, ils s'en foutent. Mais que les petits qui ont peut-être moins de moyens sont plus précautionneux parce que et apprennent ça pour pas avoir toutes les 5 minutes à dépenser de l'argent.
C'est pas que ça en fait. C'est tes guitares, c'est comme un prolongement de toi. T'es habitué à ta guitare. Tu t'exprimes par ta guitare. Et en fait, moi si mais alors j'en joue presque plus, mais à l'époque j'en jouais beaucoup. Moi aussi j'étais dans un groupe. J'aurais été extrêmement triste si tout à coup j'avais plus ma Gibson SG parce que c'était exactement.
Mais on s'en rend compte d'ailleurs quand on joue sur la guitare de quelqu'un d'autre, on est super inconfortable. T'as l'impression presque de plus savoir jouer.
De devoir réapprendre, c'est terrible.
Quand on change, tout simplement, ouais. T'as le temps d'adaptation. Et d'ailleurs, par rapport à ce métier, ce terme qui date du Moyen-Âge, hein, évidemment, on a quelque chose d'assez ancien, beaucoup plus récent avec les guitares électriques, évidemment. Mais est-ce que c'est quelque chose qui... Bon, je pense que ce n'est pas si courant que ça. Je veux dire, il n'y a pas un luthier dans 3 luthiers par ville. Je veux dire, c'est pas comme la boulangerie. Mais j'ai l'impression que ça remonte quand même en... Peut-être qu'il y a eu peut-être une baisse et c'est peut-être parce que tu nous en parles, mais...
Il y a clairement une nouvelle génération.
Voilà, c'est ça.
Il y a une nouvelle génération de luthiers qui, en plus, arrive sur un état d'esprit qui est assez différent de la vieille génération, de la vieille école. Parce que... Il y a vraiment un problème au niveau de la vieille école sur beaucoup gardent leurs informations et ne veulent pas transmettre parce qu'ils ont peur de la concurrence. On a des gens qui cherchent des stages et qui se font retoquer. Non, j'ai pas envie d'en entendre parler. Voilà. Et la nouvelle génération de luthiers qui arrive est beaucoup plus dans le partage, beaucoup plus dans l'échange, beaucoup plus dans essaye des trucs nouveaux et sont très très mal vus de la vieille génération qui, à mon avis, se sent menacée. Alors après, il y a des gens cool partout. Hein.
Alors que je pense qu'il y a assez de boulot.
J'ai été conseillé par des anciens luthiers qui ont été. Alors qu'il y a assez de boulot, oui, j'imagine. Et qu'en plus, d'un luthier à un autre, tu vas avoir un travail qui va être complètement différent.
C'est comme les tatoueurs, je trouve. C'est cette ambiance de tatouage.
Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. J'ai un de mes formateurs qui habite dans la même ville que moi. Et c'est le premier truc que je lui ai dit, moi, en arrivant, je fais. Mais ça ne va pas poser de problème qu'on soit tous les deux installés dans la même ville. Et puis, il m'a répondu, parce qu'on va faire quelque chose de complètement différent et parce que peut-être on va pouvoir se refiler des clients parce qu'ils vont plus être dans un truc que toi, tu maîtrises mieux, etc. Machin. Et maintenant, en fait, on a même pour idée de collaborer sur certains trucs. Et ça, c'est, je pense, la meilleure façon de faire. Et c'est ça qui va, à mon avis, faire évoluer le métier.
Dans plein de boulot, hein, c'est comme ça... mais après, ça dépend évidemment de la taille de la ville. Je veux dire, si t'as 4 maisons et 2 luthiers, ça peut faire un peu chier, tu vois.
Ah oui, c'est clair.
Mais voilà, si un mec qui est dans une ville où il y a quand même un petit peu d'habitants, oui, il peut y avoir un peu de place tant que tu n'es pas à une rue. Ou ça dépend vraiment des métiers, comme on dit. Il y a bien des fois, dans la petite ville à côté où je suis, il y a 5 coiffeurs. Et la ville, en 2 minutes, je la traverse. Donc pour dire, et tout le monde a du boulot. Donc en fait, il y a quand même plus de cheveux à couper que de guitare à faire. Je suis bien d'accord.
C'est vrai, c'est vrai.
Je suis bien d'accord là-dessus.
Non, mais attends, pas forcément, parce qu'en fait, dans les nouveautés, il y a aussi Internet, je pense.
Oui.
Et autant t'as le luthier de ta ville chez qui tu vas pour faire réparer tes instruments. Alors ça, évidemment, tu cherches quand même un mec pas trop loin, voilà. Mais j'imagine que Woody, il doit y avoir un vrai marché sur Internet.
Il y a tellement un vrai marché sur Internet que la plupart des luthiers à l'ancienne sont complètement absents du web. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas de page Internet, ou ils vont avoir un vieux profil Facebook qui n'a pas été updaté depuis 2013, et puis, ou sinon ils vont avoir un site Internet avec une page et juste leur numéro de téléphone, quoi.
C'est vraiment là que c'est intéressant et qu'il y a la place, je pense.
Ah oui, là, il y a complètement un marché à prendre. Ouais.
Et où la nouvelle génération, du coup, prend clairement sa place, que je pense que la plupart de tes clients ne seront pas tes voisins de quartier. Très clairement, hein, ce sera des gens qui t'auront vu ton site, une page Facebook, Twitter, Instagram.
Je pense que tu y auras déjà pensé, mais un petit combo Instagram-YouTube pour présenter le processus de tes créations
et Twitch.
Le produit final.
Là, pour le coup, il y a un luthier qui est assez populaire parmi les autres luthiers, qui est YouTuber, qui s'appelle Rémige, qui est d'un talent incroyable. et qui fait ses vidéos sur YouTube, qui paye pas de mine, qui a l'air super gentil et qui fait certains de ses outils lui-même, qui est très bien équipé et qui fait un travail monstrueux. Lui, il arrive justement à se faire une clientèle grâce au talent qu'il montre sur YouTube. Et ça, c'est à mon avis aussi un marché à prendre, que ce soit sur YouTube ou que ce soit même sur Twitch, quelque chose que moi j'ai envie de faire, être présent sur les réseaux ou vendre ton activité d'une manière différente sur Internet.
La communication,
une communication qui pour le moment n'est pas encore maîtrisée du tout par la génération de luthiers précédente.
Tous ces vieux métiers, je vous dis, moi, mon père qui est menuisier ébéniste, bon, il lui reste 4 ans à faire, il s'en fout complètement. Mais clairement.
Mais c'est pour ça qu'ils font pas, c'est qu'ils s'en foutent. Voilà. Ils ont déjà en fait, leur clientèle.
Les suivants, on voit des jeunes 35-40 ans, mais bon, du coup, ça fait beaucoup plus jeune que mon père, qui eux, par contre, ont cette idée-là de super site internet, belle vitrine, parce que le bouche à oreille, qui était le maître mot de l'époque, qui marche toujours, mais qui n'est plus suffisant, quoi.
Oui, puis le bouche à oreille n'est plus le même aussi, parce que on discute. Enfin, le bouche à oreille maintenant, quand on parle tout le temps sur Internet,
je ne
l'ai jamais rencontré. Hein. On s'est toujours parlé.
Exactement, c'est voilà. Ça. On se parle beaucoup plus via Internet et les gens, on a plus de contact avec Internet qu'avec les gens du côté, les vrais gens. Oui. Comment on les appelle
surtout en ce moment.
Oui, surtout en ce moment. Et en plus, là, on peut même plus te voir Woody avec la cam puisque Internet a dit non. Voyez, comme quoi ça se réduit bientôt, on t'entendra même plus.
D'ailleurs, Troyer, la photo aussi est figée. On est sur une photo de manche.
Ah oui, c'est normal. Parce
c'est un
que
vrai
coup,
manche, hein, vraiment.
On en parlait, du coup, j'avais fait une petite pause au moment où on en parlait. On remet à défiler les images. Et pour ceux qui écoutent le sujet, les photos sont sur l'Instagram. Une partie va en rajouter sur l'Instagram de Woody, qui est Undead Woody, tout attaché, si vous voulez retrouver les photos. Pour ceux qui font écouter le podcast une fois que l'émission sera finie, je précise.
Ouais, et je trouve que c'est beau de faire de sa passion ou d'une passion en tout cas son métier, et puis que ce soit un métier comme ça manuel, vraiment où tu crées des choses. C'est, je pense qu'on en rêve pas tous, mais on est beaucoup à en rêver.
Ouais, c'est toujours le fait de passer le cap, quoi. Et ça, faut.
Ouais, c'est ça.
Il faut se mettre le coup de pied au cul au moment où il faut, quand on a l'opportunité, surtout quand c'est le bon moment, quoi.
Tu pars d'une. C'est plein de gens, on en parlait au tout début, hein, c'est que tu pars d'une situation. Je n'ai pas vu tes comptes en banque, mais je pense par rapport à les années d'expérience que tu nous as évoquées, situation financière confortable, je veux dire, tu étais posé dans la société, on peut l'appeler comme ça. Et c'est de se dire, je suis posé, je connais mon métier, mais je veux repartir de zéro.
Tu prends un risque.
Sans te faire flipper, c'est quand même un vrai risque. Et tu as un bébé clair, qui arrive. Et voilà.
Je sais déjà qu'en fait, là, je vais diviser mon salaire par 3. Hein. On ne va pas se mentir. Voilà. Mais bon, de toute façon, je pars quand même avec un filet de sécurité parce que j'ai toujours mon cœur de métier que je ne vais pas oublier. Hein. Donc voilà, si c'est vraiment la merde, je tape dans un arbre et j'ai 12 recruteurs qui seront toujours là, même dans 3 ans. Mm-hmm. Donc ça, c'est.
Oui, tu as moyen de retrouver en attendant un travail s'il y a un problème.
C'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif. Mais bon, si jamais j'ai besoin de cachetonner un petit peu là pour remettre un petit peu de beurre dans les épinards parce que les affaires sont compliquées, voilà. Je pourrais toujours donner à manger à ma gamine. C'est déjà ça. Donc il y a aussi ce truc-là qui fait que moi, dans l'informatique, je n'allais pas connaître le chômage quoi qu'il arrive et que je pourrais y retourner si jamais j'en avais besoin.
D'ailleurs, petite question.
Ouais, c'est un bon filet.
Par rapport à tout ça, c'est-à-dire quelqu'un qui serait dans ta situation, du coup, qu'est-ce qui a été mis en place, je veux dire, c'était année sabbatique, comment ça s'est passé avec ton ancien employeur pour des gens, les financements de formation, si on peut aborder un petit peu ce thème-là, pour des gens qui aimeraient faire comme toi, comment ça s'est passé avec l'employeur, la formation?
Là, moi, concrètement, je suis toujours salarié de ma boîte dans laquelle je travaille.
D'accord.
Je suis dans un dispositif de transition professionnelle, donc c'est le nom de la structure, transition pro, anciennement ça s'appelait fonds gestifs.
D'accord.
L'objectif, il a été en fait au départ de convaincre mon entreprise de dire en octobre j'ai envie de démarrer une formation pour une reconversion professionnelle, c'est-à-dire que pendant 6 mois je serai plus là et vous me paierez plus. L'organisme de transition pro, c'est ça, ils me payent pas. C'est comme 6 mois sabbatiques pour eux.
D'accord.
L'organisme de transition pro vous file de l'argent, vous me reversez mon salaire comme d'habitude et vous vous occupez plus de rien. Moi, de mon côté, il a quand même fallu que je fasse un dossier auprès de Transition Pro pour les convaincre d'assurer ma formation.
D'accord. Donc, et après, c'est de trouver.
De financer ma formation.
D'accord.
C'est quoi les arguments
Alors, du coup, là, il a carrément fallu que je me fasse accompagner d'un bureau de gestion pour monter mon projet, faire un business plan, faire un dossier financier. Tout ce que tu ferais, en fait, si tu allais proposer projet de création d'entreprise à la banque, par exemple. Et il a fallu que je fasse une lettre de motivation, et il a fallu que je fasse tout un tas de choses dans ce goût-là. Et le dossier a été accepté par Transition Pro, ils ont validé ma demande de financement, mon entreprise, ils ont fait ok, t'as envie de changer de métier, on valide, il n'y a pas de souci. Et à partir d'octobre, j'ai pu commencer mon travail dans le centre de formation.
Et tu y es à plein temps?
Et j'y suis à plein temps, du lundi au vendredi.
Donc attends, ta décision a été prise quand et ça fait combien de mois en tout jusqu'au moment où tu es luthier?
Le temps de validation de dossier et tout ça.
Le problème, c'est qu'on a eu une pandémie globale qui s'est étendue en plein pendant la gestion de mon dossier.
Ah bon? Laquelle? J'ai pas le nom.
Hein? Donc oui, alors, le gros problème, c'est que j'ai eu mon acceptation de financement fin juillet, début août. Pour démarrer fin octobre, alors que moi j'avais déjà dit au client que je quittais la mission, le client en fait il avait déjà prévu mon départ fin août.
Ah
voilà, donc du coup là, à cause des traitements ralentis à cause du Covid et du fait que les gens à Transition Pro ils étaient pas au bureau, moi j'ai pas pu avoir de réponse je crois que c'était début juillet. Donc, j'ai stressé fortement pendant un bon moment.
Qui se fait quand même rapidement, normalement.
J'aimerais bien, j'espère. J'espère pour les prochains.
Oui, voilà. Les gens qui ont envie de faire la même chose, parce qu'il y a tout qui peut être fait. Je veux dire, là, dans tout ce que tu as fait, il y a plein de choses qui peuvent t'aider. Comme tu as dit, tu t'es fait aider d'un organisme pour réaliser ton dossier. Et cet organisme, il est gratuit, payant. Des fois, des associations qui font ça.
Oui, il y a la région, il y a plein de choses qui font ça. Le Pôle emploi peut vous aiguiller aussi pour ce genre de démarche.
Je pense que c'est Pôle emploi le premier quand on est vraiment paumé, se rapprocher du Pôle emploi de
alors,
votre
là,
ville.
Du coup, Transition Pro, c'est pour des personnes qui ont une certaine ancienneté dans leur entreprise et qui sont salariées. Ça, il faut se renseigner. Au pire, vous pouvez
il y a peut-être d'autres organismes qui existent Twitter, pour d'autres profils. Ouais.
Vous aiguiller là-dessus. Et ce qui va se passer pour la suite, c'est que moi, je compte ouvrir mon atelier fin mars, à la fin de la formation. Et j'ai négocié une rupture conventionnelle avec mon entreprise pour que mon contrat s'achève à la fin de la formation. Et je vais me redemander un nouvel accompagnement d'un bureau de gestion pour mettre en place mon entreprise et voir si je peux profiter des allocations chômage pour création d'entreprise. Voilà, parce que je vais pas me rémunérer tout de suite parce qu'il faut le temps que je me fasse mon chiffre d'affaires.
En général, c'est un an, une entreprise au moins, le temps que tout se mette. Ça dépend des entreprises, évidemment, des corps de métier.
Alors, quoi qu'il arrive, avec une rupture conventionnelle, oui, tu peux profiter du chômage, mais tu sais qu'ils vont ils vont décompter l'équivalent nombre de mois de ce que tu auras donné ton entreprise.
Oui, il y a des trucs comme ça, mais après, ça voudra dire que j'aurai un mois de plus finalement de droit au chômage. Ça va se goupiller d'une manière ou d'une autre.
Voilà, il y a tout prévu. Et encore une fois, on rappelle pour les gens qui ont des idées comme ça, n'ayez pas peur, toujours des organismes qui sont là. Et il faut toujours trouver, sauter le pas.
Il
ne
faut rien s'interdire, en fait. Et puis, comme tu dis, Woody, c'est pas la catastrophe si ça marche pas.
T'as un bagage forcément, derrière.
On peut toujours réatterrir sur autre chose. Mais en fait, la vie est courte et si vous avez une idée et quelque chose où vous dites je pourrais le faire et j'adorerais le faire et finalement, est-ce que je pourrais pas en plus en vivre? Franchement...
Au début, si vous avez la possibilité de coupler ça avec votre métier, que vous avez déjà le temps de vous former, toi tu pouvais pas, tu devais être en centre toute la journée, mais des fois il y en a... Qui, par exemple, le week-end, le soir, il y a plein de possibilités.
Prendre un temps partiel.
C'est ça, se mettre en temps partiel.
Ouais, vous pouvez faire ça, ou sinon sur votre temps libre. Moi, c'est vrai qu'avec le podcast et les groupes de musique, vous me connaissez, le stream. On s'est toujours dit, de toute façon, Woody, on se demande s'il arrive à dormir 8 heures par jour. J'avais vraiment pas le temps de me mettre. Surtout qu'en plus, j'ai ma gamine, j'ai ma femme, voilà. Ça fait quand même pas mal de choses à penser. Et c'est pour ça qu'il fallait vraiment que je fasse une coupure, que je change du tout au tout. Ouais.
Ah, c'était partir sur de nouveaux horizons, mais comme tu dis, ce n'est pas encore lancé, qu'il y a déjà des clients et avec cette nouvelle génération, avec Twitch, tout ça, YouTube, voilà, tu as moyen de gérer ça d'une façon de mettre. Tu feras suivre ça, on en reparlera régulièrement parce que tu es là, toi, avec nous chaque début de mois et même en parlant de podcast, on pourra évoquer évidemment le sujet et tu reviendras quand on aura, bah, quand l'entreprise va vraiment se lancer. Pour les gens, s'ils ont envie de vraiment de suivre tout ça, je veux dire, quand tu diras, bah, voilà le site de mon entreprise, voilà où est-ce qu'on peut commander, voilà où est-ce qu'on peut regarder mes lives de fabrication, les gens qui veulent avoir toutes ces infos, ils iront où pour être bien renseignés?
Sur mon Twitter, ce sera le meilleur truc. Twitter, généralement, il y a un condensé de toutes mes activités.
Donc, UD, tire du bas, Woody, je rappelle.
On vous fera des RT de toute façon. Des
voilà, êtes, sur le Twitter important. Du YOLO Show, le YOLO Show, vous aurez un petit peu des faves, des petits cœurs, des RT, de tout. Mais je rappelle, c'est UD, tire du bas, Woody, WOODY. Et je rappelle l'Instagram, Undead Woody, pour pouvoir avoir déjà plus de photos. Bon, tu mettras peut-être majoritairement des photos sur l'Instagram et des contenus plus concrets sur Twitter.
C'est ça. En fait, j'ai un truc qui me permet de copier mes posts Instagram sur Twitter, mais ça marche une fois sur trois. Donc,
donc une fois sur trois, vous avez l'information, les amis. Au moins, c'est donc, donné.
Allez sur Insta pour les photos.
Mais les liens seront sur les deux, évidemment. Dans le lien, tu renseigneras bien ta bio Twitter et Instagram pour avoir les liens qu'il faut bien pour YouTube, pour Twitch et pour le lien du futur site où les gens pourront passer commande ou trouver. Enfin, il y aura tout.
C'est ça, et sachant que à partir de début avril, je compte mettre en place des live streams de Lutri.
Oh là là. Ah,
si vous avez envie de voir ça, je vais voir comment carrément. Je mets ça en place, mais il y a complètement moyen que, oh bah que ouais. ça se goupille.
Tu mets, voilà. tu mets des multicams, tu mets des cams un peu partout dans l'atelier, mais...
C'est ça.
Oh là là,
mais ça va être une petite logistique, mais ça va le faire.
Le futur Gotaga de la guitare, c'est lui. L'entrepreneur, le Zerator entrepreneuriat de la lutherie. Ah bah en tout cas, d'avance, on te souhaite. Bon, là, l'aventure est déjà lancée, mais l'aventure entrepreneuriale va arriver vraiment là bientôt. Avec ces mois qui s'enchaînent avec le Covid, où des fois on ne voit pas le temps passer. Moi, des fois, je ne sais plus, lundi, mardi, bon. quel jour sommes-nous? Eh bien, en espérant que tout se passe bien. Mais voilà, moi, je vous dis, quand on a déjà un business lancé avant même que l'entreprise soit vraiment créée, moi, je vous dis que c'est une affaire qui marche.
Oh, c'est un bon signe déjà.
Voilà, c'est plutôt cool. Des fois, il y en a, ils attendent un an avant d'avoir un ou deux clients. Et les autres, c'est l'inverse. Petit chanceux, et on relaiera les informations et tu reviendras évidemment nous en parler une fois que tout sera bien mis en place. Et vous pourrez voir de beaux streams du côté de chez Woody. Bah écoutez les amis, je pense qu'on a fait un grand grand tour. Il n'est pas encore l'admi, mais on a bien résumé voilà, tout ton parcours professionnel en cours et à venir. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens pour... venir te commander quelque chose. Pourquoi toi?
Pourquoi toi? Moi parce que mes guitares, elles sont forcément vachement mieux. Et il y a plus d'amour dedans. Il y a de l'amour de barbu. Et de l'amour de barbu, ça voilà, ça ne l'est pas, ça.
Oh là là, bah évidemment, les cheveux aussi.
Et oui.
Les cheveux. Et d'ailleurs, tiens, une petite question, je me pose. Alors, tu me diras par rapport aux gens qui t'entourent dans la formation. Est-ce que si tu n'es pas musicien, tu peux fabriquer de bonnes guitares?
Oui. Oui,
tu ne sais pas jouer de guitare.
C'est vrai que ça aide. C'est vrai que ça aide de d'être musicien quand tu es luthier. Mais je parlais de ce luthier très très talentueux qui s'appelle Rémy, qui joue très peu de guitare. C'est-à-dire que il arrive à taper 2-3 accords et de jouer 2-3 mélodies pour s'assurer que ses guitares fonctionnent comme il faut. Mais il n'est pas vraiment musicien. Et il y en a pas mal en fait de luthiers qui jouent pas nécessairement beaucoup de guitare. Après bon, je pense que la plupart c'est des passionnés. Donc voilà, il y a aussi ce côté-là qui fait que. Mais pourquoi pas? Après, je pense que quand tu fabriques des guitares, ça t'invite peut-être à apprendre à en jouer.
Ah, voilà. C'est pour ça que je me posais la question, est-ce que c'est pas genre, bah, comme toi, ton parcours, t'as joué étant jeune, etc. Et ça peut t'amener à ça. Et des fois, pas du tout. Donc non, d'accord.
Comme quoi, ouais. Il y a des bons exemples.
Il y a des très bons qui fonctionnent très bien. Mais en tout cas, toi, tu auras l'expertise. Donc c'est un musicien qui va vous fabriquer des guitares donc, depuis tout jeune. Donc au moins, tu as cette expertise supplémentaire. Et ça peut être un atout. Hein, là, tu feras des lives où tu joueras tes propres morceaux composés, où tu te feras strike sur Twitch. Et on attend ça avec impatience. Les
comme le gars de Trivium, comme le gars de... Ouais.
Ah, exactement, c'est beau. Mais bon, si vous voulez suivre tout ça, les amis, hein, les futurs strikes de Woody sur ses propres compos, eh bien, ce sera sur son Twitch. Est-ce que tu peux nous dire ton Twitch? Quel est-il?
Je sais pas, twitch.tv slash undead underscore Woody, je crois que c'est ça.
Ah là là,
c'est possible.
Twitch.tv, je tape à l'heure actuelle.
En direct, l'information est présente.
Twitch.tv slash undead underscore Woody, et je suis actuellement en train de host le YOLO show de la Cooldown TV.
Ouais, c'est nous. Donc voilà, vous pouvez retrouver les Twitch qui vont arriver courant à partir du printemps.
C'est ça.
Voilà, du printemps, vous verrez de beaux lives. Et, vous pourrez poser vos questions et commander de belles guitares pour vous ou pour vos amis. Ça ferait des beaux cadeaux. Tu vas faire des bons cadeaux. Allez, pour 2000 euros, une guitare. Hein. Je me suis toujours posé la question. Une guitare, ça part à combien? Je pense que c'est compliqué. C'est comme les tatouages, de dire les prix. Mais...
guitare de luthier, t'en as pour environ 1000-1200 balles.
Voilà, sur un prix de base, on va dire. Prix d'entrée?
Ouais.
Ok.
Ça dépend si t'as des choses compliquées qui sont faites dedans, si t'as de la sculpture, si t'as des petites fioritures, des incrustations un petit peu compliquées à faire parce que forcément t'y passes plus de temps, donc bah c'est plus cher.
Une guitare à 500 balles, non, on est d'accord.
Non. Voilà. Non, à moins que ce soit une guitare que t'aies récupérée sur une brocante, que t'aies restaurée. Là, il y a plus moyen d'avoir des prix dans ce goût-là.
D'accord, mais quelque chose.
Ceci dit, une très bonne guitare, une Gibson ou une bonne Fender, ça coûte cher aussi, hein. C'est pas non plus hors de prix, je veux dire.
On est en train de parler du prix qui ça les vaut, mais voilà, il faut avoir un.
Et d'ailleurs, c'est très français. Hein. C'est très français de se dire ah, tiens, c'est quand même vachement cher, 1200 balles pour une guitare. Cet artisan-là, il m'arnaque un petit peu. C'est très français, hein, parce que tu vas aux États-Unis, les mecs, ils te vendent des guitares 10 000 balles et tout le monde trouve ça normal. Quoi. Voilà, il n'y a pas le même rapport au craft,
à l'artisanat. Une Tesla, vous n'allez pas l'acheter 5000 euros, les amis. Hein. Je donne l'équivalent voiture moderne, mais voilà, ça vaut le prix. Non,
mais surtout, en fait, ce n'est pas comparable, parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il n'y a pas d'autres objets, ou très peu, à part les montres, mais les montres, c'est très cher aussi, qui se transmettent potentiellement de génération en génération.
Tu diras Elon Musk, il va te dire que ces voitures vont durer des générations. Hein.
Non, mais pas du tout. Elles sont périmées dans 10 ans, ces voitures. Parce que les batteries, il faut les changer. Évidemment. Parce que le logiciel aussi.
Enfin, plein de choses qui valent leur prix. Et il faut arrêter de discuter. Bon, c'est le plus grand truc qu'on peut dire, surtout pour les artisans.
En fait, 1200 balles pour un truc qui est sur 4 ou 5 générations, c'est pas honteux. Hein.
Oui, et surtout vu les heures passées pour la réaliser.
Et oui, oui.
En plus ça, hein. C'est des grandes discussions qu'on a eues sur les prix avec les graphistes où les gens passent leur temps à dire que c'est trop cher alors que non. Parce que ce que les gens oublient, c'est que...
Oui, parce que t'es payé en ticket passion, forcément.
Oui, c'est ça, mais la passion, mais ça nourrit. Moi, je trouve, c'est moi, à chaque fois, je mange de la passion et il y a les fruits de la passion. Pourquoi il n'y aurait pas, évidemment, autre chose? Mais on paye toujours le temps de travail, mais aussi l'expertise et les années peut-être derrière qu'il y a eu, les mois, les années... quelqu'un que ça fait 50 ans que c'est son métier, bah voilà, tu payes ses 50 ans d'analyse qui peut être le cas sur une guitare, sur une chaise, sur un meuble, sur ce que tu veux. Donc, c'est tout ce qu'il y a derrière, évidemment. Mais bon, c'est français, pas que, mais notamment. Ça, on est bien d'accord. Ah, il faut bien cracher sur... être patriote, mais pas trop. Ah, j'ai toujours dit, voilà, faut trouver un juste milieu. En tout cas, merci à toi, mon cher Woody, d'être venu parler à la fois du podcast et à la fois de cette passion qui... est en train de devenir un travail, qui est
avec
la lutherie,
plaisir,
fabrication de guitare. Et de toute façon, prochaine fois que tu reviens, c'est début du mois prochain pour nous parler de Capsule Pod, Capsule Legacy. N'hésitez pas à suivre Woody pour ça et pour la lutherie. Bah, à la fois son Twitter, UD-Woody, et son Instagram, Undead Woody, tout attaché, pour voir un petit peu de quoi il en retourne. Comme ça, si vous n'avez pas Twitter qu'Insta, vous êtes sur Insta. Si vous n'avez pas Insta que Twitter, vous allez sur Twitter. Et vous êtes satisfait au bout d'un moment, bordel de Dieu. Et ben voilà, le Twitch qui va bientôt arriver, c'est Undead underscore Woody.